Le diable était là. Le diable désirait lire son avenir et on lui tira 3 cartes. Une cage, un amant et une enfant. La première l'énerva, la deuxième le rassura et la troisième l'effraya. Bonjour, c'est Geoffrey de Dios. Vous allez découvrir avec moi 3 histoires rassemblées dans Le diable était là. Découvrons la première partie, Le diable dans une cage, où les élèves de Joris Framboise ignorent qu'ils sont accompagnés par une présence malveillante. Geoffrey vous raconte. Le diable était là. Email de Joris Framboise adressé à ses élèves. Pour célébrer Halloween, je vous invite à écrire une nouvelle sur des événements étranges où le diable se cache. Faites-nous peur. Pour vous inspirer, voici un préambule. Il n'existe pas un dieu où des esprits malveillants agissent sans plaisir de torturer. Ces êtres magiques, mais aux mauvaises intentions, ont un appétit intarissable et parfois, des hommes, des femmes ou même des enfants se prêtent à leur jeu en pensant connaître le vrai bonheur. Le monde entier ne peut l'ignorer. D'effroyables histoires sont causées par des gens qui n'ont pas su écouter leur bonne conscience. Nous les voyons tous les jours, beaux, laids, charmants, d'une banalité affligeante, tristes, joyeux. Ne les aimez pas, sinon vous pourriez commettre les mêmes erreurs. Bien cordialement, Joris Framboise. Véronica venait de s'installer à sa place habituelle. Au premier cours du soir, elle s'était assise près de la fenêtre, telle une solitaire qui ne voulait se faire aucun ami. C'était surtout un moyen de se protéger des autres élèves de Joris, de mettre des distances avec de possibles échecs affectifs. C'était idiot, car même s'ils étaient là pour apprendre le français, ils avaient un certain attachement pour chacun sans se l'avouer. C'était la première fois que Joris proposait à ses élèves de rédiger une histoire courte. Ils avaient un très bon niveau, se demandant même pourquoi ils restaient encore là. Quand il vit que dans un mois il se retrouverait le 31 octobre, il eut l'idée que ces étudiants hispanophones devaient révéler leur créativité et leur part obscure. Joris était lui-même un auteur, du moins amateur, mais désirant ardemment être un écrivain célèbre aux romances perturbées par des monstres, des vampires et des démons malveillants. Le plus enthousiaste était Malcolm. Certes, il préférait rédiger une fiction joyeuse, mais comme son prof, il chérissait l'idée d'écrire une petite histoire dans la langue de Molière. Celui-ci, ce quadragénaire, venait de New York et il aimait lire les romans d'amour masculins. Il en parlait beaucoup avec Joris, car il le pensait gay. Ruth, l'espagnol du groupe, n'avait pas caché sa crainte de rater l'exercice, autant par manque de temps que par absence d'imagination. Heureusement, Joris lui avait donné quelques conseils, et sa jeune élève obtint aussi l'aide de son compagnon, puis celle de son meilleur ami français. Ce dernier avait été aussi inspiré par l'exercice et écrivit 2 histoires de son côté, en premier sur un pianiste et en second sur une petite fille lui rappelant sa nièce. Il avait gardé ces 2 idées pour lui et préféra dire à Rousse de s'inspirer de son pays, et elle songea à un sujet très actuel. Note du professeur. Ordre de discussion, entre parenthèses, peut changer. Célébrons des pierres, de Joris. 3 pas vers Junjin, de Malcolm. Flipar en colores, entre parenthèses, halluciné, de Roots. Les perles perdues, de Norma. Chimichurri, de Leonardo. La pieuvre géante, de Veronica. 10 minutes avant la fin de la session, annonce de la surprise. Joris avait décidé de jouer le jeu, grâce à Malcolm, qui avait découvert qu'il voulait être écrivain. Il était plutôt content de son histoire, inspirée par son propre voyage scolaire sur une péniche naviguant sur le canal du Midi. Vraiment, il en était fier. Veronica vit enfin les autres élèves arriver. Norma, la Canadienne d'origine vénézuélienne, installée à Paris depuis plus de 10 ans en tant que journaliste mode, prit place à droite de la Mexicaine. Elles se saluèrent en espagnol et s'amusèrent à se moquer de l'accent de l'une et de l'autre. Quand Michael entra, Norma remarqua qu'un chat noir caressait la fenêtre. Folle des félins, elle le laissa s'infiltrer. Sans hésitation, elle lui trouva un prénom, Noisette, parce que son pelage avait la couleur du fruit sec. Michael fut pris aussi d'affection, et avec Norma, ils se penchèrent pour le chatouiller. Ils questionnèrent bêtement l'animal pour savoir à qui il appartenait, si c'était un chat errant, et sournoisement, Joris les rejoignit dès son arrivée pour vérifier son genre. Quand le jeune prof vit que c'était un mâle, il jugea étrange de lui donner un prénom féminin. Mais Norma l'aimait et n'en demandait pas. Ça faisait tellement mignon. Ruth était en train de courir dans les rues de Paris, évadée du supermarché où elle travaillait. Elle avait pris deux lignes de métro. Deux hommes l'avaient sifflée et un sans-abri l'avait insultée parce qu'elle ne l'avait pas regardée. Elle se moquait de tous ces détails. Ce qui importait, c'était de ne pas arriver en retard comme Leonardo, l'argentin du groupe, et le plus célèbre, car c'était un acteur et danseur ayant joué dans des séries françaises. Non, elle ne voulait pas atteindre le seuil de la porte après lui. Elle regardait sa montre, que ses parents lui avaient offert le jour du roi mage, et se précipita encore plus vite. Intimement, elle n'aimait pas Leonardo. Pour elle, il était prétentieux. Il faisait trop son beau gosse, toujours bien fringué, et quand il parlait, c'était toujours pour se vanter. Surtout, elle détestait sa supériorité concernant la langue espagnole. Il disait souvent que son accent était le plus séduisant et le plus riche de tous les autres accents du castillan. Tout son charme résidait alors dans sa manière argentine de prononcer les doubles L et les Y en CH, ironisait l'espagnol. Par chance, sa haine envers la petite vedette lui donnait de la force pour arriver à l'heure. Encore 2 minutes. Véronica se moquait de son prof, de Norma et de Michael. Elle ne comprenait pas comment on pouvait s'attacher à un animal si tôt. Il traînait peut-être avec un virus, et pire, il pouvait les mordre. Elle avait ses craintes parce qu'elle n'avait rencontré que des chats violents au bout de 2 minutes. Heureusement, le félin ne manquait pas de calme et adorait les caresses qu'on lui prodiguait. Même les doigts de la Mexicaine quand il frôla ses jambes. Or, celle-ci évita son corps sous prétexte qu'elle était allergique aux poils de chat. Norma s'énerva, assurant que Noisette ne désirait que de l'amour. Ce genre de remarque a agacé Veronica, mais elle avait cette politesse mexicaine de montrer toujours son beau sourire et sa désinvolture. Donc, elle invita le félin à aller voir les autres, car ils étaient plus généreux qu'elle. C'était à cet instant que Joris tapotait sur son bureau et riait de la situation. À l'heure pile, Ruth entra en sueur. Elle se confondit en excuses pour son retard et pourtant tous lui affirmèrent qu'elle était à l'heure. Mais ça ne l'empêchait pas de demander pardon. Installée derrière Michael, elle sortit son cahier rouge et salua tout le monde, en s'excusant toujours et encore. Joris questionna sa classe sur l'état de leur journée. Avait-elle été exquise? Avaient-ils tous bien mangé? Michael fut le premier à répondre et leur apprit qu'il avait cassé son aspirateur, tandis que Norma venait de goûter un maté succulent et qu'elle désirait en boire un soir avec Leonardo. Enfin, l'acteur arriva, avec son costume 3 pièces et une moustache pointue. Norma était subjuguée et lui posa un tas de questions sur ce qu'il venait de vivre ce 31 octobre. Leonardo lui répondit, le sourire resplendissant, mais au fond, il ne s'intéressait pas à la Canadienne. Il préférait largement les femmes plus distantes, parfois mariées. Il détestait la facilité. Quelques heures plus tôt, il avait fait quelques galipettes avec sa collègue, fiancée du réalisateur du sitcom. Les élèves n'étaient pas dupes sur le mode de vie sexuel de Leonardo, et la majorité pensait qu'à cause de son passe-temps, il avait raté l'écriture de sa nouvelle. Or, Joris commença la session en félicitant tout le monde d'avoir réussi l'exercice. Lecture de la nouvelle de Joris intitulée « Célébrons des pierres ». Pierre était le Toulousain de la classe. Son accent le trahissait, lui qui était entouré de camarades du Loiret depuis la maternelle. Ses maîtres et maîtresses s'étaient souvent posé des questions sur son impossibilité à parler comme eux. Le fait qu'il était le casse-cou de tous les élèves pouvait peut-être expliquer bien des choses. Pierre était toujours là pour embêter ses amis. Mais jamais rien de bien méchant, comme disait son instituteur. Cet après-midi de printemps, tous les petits CM2 voyageaient pendant 5 jours sur une péniche naviguant sur le canal du Midi. Ils étaient au 3e jour, et pour l'instant, les enfants de 10 ans avaient surtout apprécié le passage par les 9 écluses de Fonsoranes. C'était impressionnant. Rosaline, l'animatrice, allait saisir une chance de marquer les esprits des petits. Cette fois-ci, elle se préparait à jouer avec leur imagination et leur crédulité, en racontant une courte histoire en rapport avec le tunnel que la péniche allait traverser. Pierre était particulièrement silencieux à ce moment. Il fixait le passage avec beaucoup d'attention, gardant les mains dans les poches, tandis que les autres étaient autour des tables du pont, à rédiger leur carte postale. Le chenapan les observa un instant, puis regarda à nouveau le tunnel, comme si il était la figure de proue de la péniche. C'était à ce moment-ci que Rosaline commença son récit. « Les enfants, nous allons rendre visite à Basile. Il vit dans ce passage obscur. Vous le connaissez ?» Tous firent non de la tête, ou le scandèrent comme un bourdonnement, et ne cachèrent pas leur curiosité. C'était un homme très cupide. Il voulait être roi. Un roi désirant voler toutes les richesses pour construire un château sur la montagne. Une montagne fabuleuse que nous allons franchir par ce tunnel. Pour le punir, on l'enferma dedans. « Nous nous en approchons, » annonça-t-elle comme un secret. « Mais il y a une chose que vous devez surtout savoir. Écoutez bien. » Vous devez lui donner une pièce d'or ou un objet de valeur pour qu'il ne vous vole pas. Peut-être votre cartouche de jeu vidéo. Évidemment, les petits rechignaient à abandonner leurs jouets ou leur argent de poche. On sentait un esprit de rébellion et une crainte que le maître d'école devait calmer. Son sourire rassuré, et les enfants dévisagèrent Rosaline. « Vous êtes prêts ?» répétait-elle ensuite dans sa tête. La péniche était entrée dans le tunnel, et tous virent cette minuscule niche à 5 mètres de long. Toutes les ombres s'étaient réfugiées ici, et certains écoliers voulaient très vite sortir de là, croyant réellement à l'histoire. « Ce monsieur est mort !» rectifiait Sophie, l'un des lots de la classe, en fixant Rosaline avec suffisance. « C'est un être magique !» leur apprit l'animatrice. « Dès qu'on sera au-dessous de lui, il fera un bond si on ne lui donne rien. » Au cœur du groupe d'enfants, le timide Martin craignait pour lui. Il s'était imaginé que le roi le pousserait dans l'eau, et il en avait peur. « Attention, nous approchons dangereusement. Préparez-vous à jeter quelque chose dans le trou, si vous ne voulez pas que Basile vous vole quelque chose. » s'amusa Rosaline. Martin fut en partie soulagé. La finalité était vraiment le vol. Il regarda la niche avec appréhension. Et le turbulent Pierre fut le seul écolier à participer au jeu. Soudain, on entendit un écho terrifiant. « Qui a jeté cette caillasse ?» Qu'arrivera-t-il aux écoliers ? Basile va-t-il se venger ? Dans le prochain épisode, nous écouterons la suite des aventures de Pierre et de ses camarades. Puis, les autres récits des élèves de Joris que le diable écoutera avec attention.